La Voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30, TU.
Il est 19h30, temps universel. Rebonsoir au micro Idrissa Sédoudia pour ce second bulletin d'information de la soirée. Les Libériens ont voté aujourd'hui sans incident pour renouveler la moitié des 30 sièges du Sénat, un scrutin reporté plusieurs fois en raison de l'épidémie d'Ebola. Parmi les candidats, l'opposant et star national du football George Weah et son adversaire Robert Sirleaf, Ellen Johnson Sirleaf, c'est donc le fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf. L'Organisation mondiale de la santé annonce que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait maintenant plus de 7000 morts, soit 7373 et une augmentation de presque 450 par rapport à son bilan de mercredi. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de l'OMS publiés hier sur le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le nombre de cas dans ces trois pays s'établit maintenant à 19 031. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est aujourd'hui en Guinée dans le cadre d'une tournée dans la région. Il a rencontré le président Alpha Condé et des agents de santé tout en se félicitant du ralentissement dans certaines parties de la Guinée. Il s'est dit préoccupé par l'augmentation des cas dans la région forestière à la frontière avec le Libéria et la Sierra Leone. Bamako, la capitale du Mali, est la prochaine étape de M. Ban. Par ailleurs, pour rester en Guinée, des centaines de jeunes, craignant une contamination de leur quartier, ont empêché très violemment l'installation d'un centre de traitement d'Ebola de Médecins sans frontières à Kissidougou, dans le sud du pays. C'est selon une source sécuritaire et un responsable anti-Ebola cité par l'AFP. Ils disent que cet incident a eu lieu hier. Selon le commissaire de police Alfred Oulemou, joint par l'AFP, les jeunes ont d'abord saccagé les installations, notamment des tentes de MSF, mis le feu aux bâches et cassé des chaises pour enfin chasser le personnel sanitaire et officiel qui avait pris place sur les lieux. Sony Pictures espère toujours montrer son film au controversé L'Interview qui tue, une comédie satirique sur un complot fictif d'assassinat du leader nord-coréen Kim Jong-un. Ce film a été la source d'un piratage massif de cette compagnie d'Hollywood et que les autorités américaines imputent à la Corée du Nord. Pyongyang a démenti être responsable de ce piratage, des emails et autres données privées tout aussi compromettantes postées sur Internet. Mais la Corée du Nord ne s'en réjouit pas moins de cette cyberattaque. Elle a proposé à Washington une enquête conjointe pour élucider cette affaire. Et si les États-Unis refusent cette offre, a averti un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, il y aura, et je cite, « de graves conséquences ». Le président cubain Raúl Castro a rendu hommage aujourd'hui au président Barack Obama pour avoir décidé de rétablir les relations diplomatiques entre Washington et La Havane. Mais dans un discours radio-télévisé devant l'Assemblée nationale cubaine, il a précisé que cela ne signifiait pas la fin du régime communiste sur l'île. Raúl Castro s'est dit ouvert au dialogue sur tout un éventail de sujets avec les officiels américains attendus le mois prochain à La Havane. Il a confirmé qu'il participera aussi au sommet des Amériques en avril au Panama, où on s'attend à ce qu'il rencontre M. Obama. 4 Afghans détenus depuis plus d'une décennie à la prison militaire américaine de Guantanamo à Cuba ont été rapatriés chez eux à la demande de leur président Ashraf Ghani.
Washington, la voix de l'Amérique. Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Comment je pouvais envoyer mes filles à l'école? Vous écoutez le magazine au féminin avec Nathalie Barre. J'ai une invitée en ligne au Mali, Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture au Mali, écrivaine, activiste et également coordonnatrice du Forum pour un autre Mali. Alors, c'est pour rendre hommage à la chanteuse malienne Fantanie Touré qui est décédée le 3 décembre dernier à l'âge de 50 ans. Une très grande perte pour le paysage culturel. Aminata Dramane Traoré, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Je vous remercie de me solliciter aujourd'hui. Ah, c'est un choc, hein? Un choc énorme. On ne s'y attendait pas. Je sais pas.
Elle était jeune, hein?
Elle était jeune, mais c'est une belle voix. Un rayon de soleil, quoi. C'est une grosse perte pour nous.
Et qu'en était-il de son engagement pour la culture de son pays, justement? Elle a fait beaucoup pour le Mali.
Elle avait une foi inébranlable en son rôle à elle. Elle était toujours désireuse d'être impliquée dans des initiatives qui ont du sens, quoi. Très rapidement, lorsque moi j'ai reçu ici les migrants refoulés de Ceuta et Melilla, j'ai sollicité beaucoup d'artistes. Elle était avec moi et bon, récemment, la dernière fois, j'avais une formation ici, les femmes et la culture et l'économie. Donc elle est venue rapidement m'embrasser. Elle ne pouvait pas rester, elle devait repasser et puis on ne s'est plus revu.
Elle était également impliquée dans des projets de défense des droits de la femme et notamment à travers son festival féminin Les Voix de Bamako.
Oui, une fois par an, c'est vrai, il y a quelques années. Elle a voulu créer cet espace, voix plurielle, voix de femme, parce qu'elle s'est rendue compte elle-même de l'importance de la prise de parole. Elle sollicitait différentes intervenantes, mais aussi des intervenants, pour rendre compte de l'importance du rôle des femmes dans notre société. Bon, elle se battait comme elle pouvait, à la fois dans son domaine, mais aussi au plan social.
Son époux est d'ailleurs un acteur très connu, n'est-ce pas, Habib Dembélé, c'est ça?
Gimba, oui, on l'appelle Gimba. C'est un grand, oui, effectivement, un comédien. Bon, c'est deux figures, hein, deux figures emblématiques de la culture malienne. Il y avait une grande complicité entre eux. Voilà, bon.
Vous-même, vous faites beaucoup aussi pour les droits des femmes, des enfants, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous allez finalement retenir d'elle en faveur des droits des femmes et des enfants?
Bon, moi, je pense que c'est sa disponibilité. C'est quelqu'un de très expansive, ouverte. Je vous dis, quand elle est quelque part, on sent que Fantanie est arrivée, quoi. Mais bon, c'est clair qu'on lui rendra hommage et pour illustrer comment les personnalités féminines de sa stature au plan national et international, comment on peut s'impliquer dans ce genre de travail et comment prolonger ce qu'elle a essayé de faire à travers son festival, ses chansons. Il y a certaines chansons de Fantanie est absolument bouleversantes. Elle chante dans plusieurs langues. Et compte tenu de la situation culturelle, la crise, elle a vraiment voulu un pays uni, culturellement, dans sa diversité, quoi.
Merci beaucoup, Aminata Dramane Traoré. Je rappelle que vous êtes activiste, hein, que vous êtes écrivaine, que vous êtes ancienne ministre de la Culture et également coordonnatrice du Forum pour un autre Mali. À très bientôt, au revoir.
Merci beaucoup, merci infiniment.
Parole de femme.
écoutez le magazine au féminin de la VOA avec Nathalie Barge et l'on continue cet hommage à Fantani Touré, chanteuse malienne décédée le 3 décembre dernier. Je vais m'adresser maintenant à une autre connaissance de Fantani. Le metteur en scène français et concepteur de spectacle Serge Aubry qui a travaillé avec elle. Monsieur Serge Aubry, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour à vous, c'est moi qui vous remercie.
Alors nous avons échangé quelques messages avant notre discussion et vous m'avez écrit « Ma tristesse est immense, Fantani est une personne magnifique à jamais ».
Je n'arrive pas encore à réaliser. Il y a à peine 3 semaines, on riait ensemble puisqu'on devait enregistrer 2 jours avant qu'elle n'arrive aux urgences. Pour moi, Fantani, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Je croyais qu'elle était indestructible. Je pense qu'elle est immortelle. Elle est partie, bien sûr, mais pour tous les Maliens, pour tous ceux qui l'ont connue, elle est à jamais. Et c'est une grande peine pour le Mali. C'est une grande peine pour ses enfants, pour Habib, évidemment, pour son mari, mais pour tout le Mali, pour tout ce qu'elle a fait. Parce que, au-delà d'être évidemment une très grande artiste, c'était une femme exceptionnelle, tout le monde le sait, ça a été dit, écrit. La seule chose que je regrette, mais peut-être que sa disparition va accélérer les choses, c'est qu'elle méritait davantage. Mmh. Elle avait la reconnaissance du peuple, de tout le monde. Elle aurait dû avoir plus de reconnaissance matérielle, si je peux m'exprimer ainsi.
C'était en effet une voix extraordinaire, une très 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 belle voix. Et si je voulais vous parler, c'est parce que j'ai écouté récemment cette très belle chanson à la plage d'Idala.
Oui.
D'Idala à la plage. D'Idala à la plage.
D'Idala, c'était une chanson qui devait devenir un spectacle. L'idée, c'était de faire un dialogue chanté des cultures différentes, puisque Fantani, c'est un peu une Joséphine Baker qui avait 2 amours, qui avait son pays et Paris. Et donc l'idée du spectacle musical où on chantait, où elle chantait bien évidemment, puisque c'était elle qui était la star, elle chantait en bambara, en français, et donc c'était un peu cet itinéraire, parce que pourquoi la plage ? La plage, c'est du sable et c'est de l'eau. Le sable, c'est le désert, c'est le Mali. L'eau, évidemment, en plus, Fantani, fille des Bozo, l'eau est extrêmement importante. Et la plage, c'est aussi, quand on arrive d'un pays étranger, quelque part, après beaucoup d'embûches, on arrive sur la plage et on se repose. Donc, c'était une évocation poétique et joyeuse, bien évidemment, que l'on allait tourner un petit peu partout à partir de 2015. Donc ça sera d'une autre façon, puisqu'il y a d'autres chansons qui étaient prêtes à sortir.
Vous disiez tout à l'heure qu'à 2 jours de son hospitalisation, Vous étiez encore en train d'enregistrer.
Et bien justement, c'était en fait ce spectacle, c'était des morceaux musicaux, des dialogues musicaux, et il y avait donc 24 morceaux, dont à la plage, évidemment, qui était lui déjà existant. Ça va justement contribuer à faire que Fantani soit toujours présente.
Parce qu'ils ont déjà été enregistrés, donc, en fait, hein, c'est cela.
Oui, on devait refaire d'autres voix et tout ça, mais en tout cas, il y a déjà une base qui est là et qui est suffisante. Voilà.
Je constate, en parlant avec vous, finalement, que vous étiez encore beaucoup plus proche que je ne le pensais de Fantani.
C'est ma sœur. Je considérais Fantani comme une sœur que le ciel m'avait donnée, une sœur africaine qui m'apportait beaucoup, à qui j'apportais également beaucoup, puisqu'on se confiait quand même, je savais qu'elle avait été gravement malade. Vraiment, je vous dis, la dernière fois que je l'ai vue, c'était mi-novembre, on discutait, on rigolait ensemble et on avait pris rendez-vous pour finir les enregistrements.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de sa reconnaissance. Vous pensez qu'elle n'a pas été assez aidée matériellement, vous disiez tout à l'heure, mais soyez plus précis.
Je suis allé souvent à Bamako, donc je marchais dans les rues en sa compagnie. Je ne pouvais pas faire 10 pas sans qu'elle soit arrêtée, c'était vraiment quelqu'un qui était aimé, connu tout le monde. À Paris, c'était pareil, je me promenais avec elle à Paris. On avait enregistré justement un jour, quand on avait fait un petit clip sur Paris Plage, tout le monde la connaissait. Il y avait des Africains, et pas seulement évidemment des Maliens, qui disaient « Oh, Fantani, Fantani !» Elle était toujours avec le sourire, elle a donné tellement pour ses enfants, pour les enfants qu'elle a recueillis, pour toutes ces femmes pour qui elle a fait tellement contre l'excision, pour l'éducation. Elle se battait pour le festival au féminin. Quand j'entendais le festival des voix de Bamako, pour moi, c'était extraordinaire comme le festival d'Avignon. C'est extraordinaire, mais quand après, elle me disait la petite subvention qu'elle avait, les aides ridicules, je me disais, mais Fantani, mais c'est pas possible, tu mérites beaucoup mieux et beaucoup plus. Alors, elle avait des honneurs, mais vous savez, les honneurs, c'est...
oui, ce qu'elle il faut manger
voulait,
aussi.
C'était pouvoir nourrir ses enfants. C'était une femme d'action. C'était une poète, mais c'était une femme d'action. Moi, je me battrais pour ça.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous battre pour ça. Je pense que vous ne serez pas le
seul.
Mais
je ne serai pas tout seul.
Oui, les voix de Bamako, vous avez participé d'une certaine manière, justement, à cet événement.
Indirectement, puisque effectivement, j'ai un petit peu aidé. Je devais d'ailleurs venir avec elle présenter une partie du spectacle en 2015. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un festival extraordinaire, qui a une vraie reconnaissance, il y a une vraie résonance dans le monde.
Vous concevez aussi des spectacles pour l'Afrique notamment.
Oui.
Je rappelle que vous êtes Serge Aubry, metteur en scène, concepteur de spectacles. Merci beaucoup pour les auditeurs de La Voix de l'Amérique.
C'est moi qui vous remercie.
On est deux, c'est ainsi. On y a des deux, c'est la question de peau.
Il est là. On veut manquer.
On n'est pas tous égaux. À la plage.
On veut manquer.
À la plage. On n'est pas tous égaux.
Plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Vous écoutez le magazine au féminin de la VOA avec Nathalie Barge. Protection de l'enfance en Afrique, où en sommes-nous aujourd'hui? Notre correspondant à Goma en RDC, Primo Pascal Roudaïgua, s'est posé cette question pour le Nord Kivu, où de nombreux enfants sont encore enrôlés dans les groupes armés.
La situation des enfants est surtout critique dans les territoires des Walikale. Ils sont souvent enrôlés par force dans les groupes armés. C'est ce que déplore Bindu Mishiki du groupe d'action pour la protection de l'enfant.
En territoire des Walikale, nous voyons que les enfants sont dans une mauvaise situation. Dans les périphéries par exemple, les groupes armés utilisent les enfants. Il est impérieux que les humanitaires comme nous puissent aussi intervenir dans tous ces secteurs en vue de voler au secours de ces enfants dans les domaines de la santé et aussi retirer ces enfants des forces et groupes armés. Ce que nous faisons actuellement, c'est la sensibilisation et retirer ces enfants des groupes armés comme les Raia Mutomboki, les NDC de Cheka, les Mai Mai Kifuafua de Delphin. Et nous avons déjà fait démobiliser 120 enfants de ces groupes armés et ils ont déjà repris leur vie civile et d'autres ont repris le chemin de l'école.
Les enquêtes menées à Goma par les enfants eux-mêmes révèlent que les violences infligées par les enseignants sont caractérisées par des harcèlements sexuels et les frustrations dues aux injures des parents. Arthur Kassawi est membre du Haut Conseil du Parlement d'enfants du Nord Kivu.
Surtout pour les jeunes filles, elles sont toujours victimes de ces abus-là, soit du harcèlement ou bien soit de ces abus-là sexuels par rapport à leurs enseignants aussi. On a remarqué que la majorité des auteurs par rapport à ces violences, ça, ce sont les parents. Première des choses, c'est que les parents injurient d'abord les enfants.
Pour Émile Mouderoy, chargé de la protection de l'enfant à la division provinciale du genre au Nord Kivu, les sensibilisations sont faites à tous les niveaux pour rétablir les enfants dans leurs droits.
Si vous prenez rien que le phénomène d'enlèvement d'enfants, bon, ça c'est un problème que nous connaissons et nous faisons des sensibilisations pour que les parents prennent des mesures pour bien garder leurs enfants. Le problème des harcèlements au niveau des écoles, les harcèlements au niveau même dans les quartiers, ça aussi ce sont des problèmes que nous connaissons et nous sensibilisons dans ce sens-là.
L'ONG internationale World Child a disponibilisé un numéro vert, le 117, pour les alertes relatives aux droits de l'enfant en RDC. Marcelin Moulaouko est de World Child.
Le 117, vous et moi sommes rassurés que c'est une innovation au niveau de la RDC Congo, mais ce n'est pas vraiment une innovation pour beaucoup de pays. Nous, nous étions encore arriérés, mais pour nous, c'est une innovation. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à ça. L'innovation, c'est également la participation, faire participer l'enfant.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
La question de la protection de l'enfance a été abordée également par notre correspondante Jolie Kamuntu dans le sud Kivu, où depuis l'arrestation de 3 présumés violeurs d'enfants à Kavumu, la société civile demande aux autorités de mettre un terme à l'impunité.
Le ministre provincial de la justice au sud Kivu déclare que le gouvernement met tout en œuvre pour que ce phénomène des viols des filles mineures soit éradiqué complètement. Gisèle Balegamire.
C'est une préoccupation primordiale du gouvernement. Et c'est pour cela que nous avons mobilisé tout notre moyen, tout notre temps à la recherche de ces auteurs. Nous avons encore demandé à la population de Kavu de pouvoir collaborer toujours dans la dénonciation de toute personne suspecte. Nous sommes en train de mener des enquêtes stratégique que nous ne pouvons pas dévoiler.
La société civile noyau de Kavumu se dit être contente de cette arrestation, mais le besoin des victimes de ces atrocités est de voir les auteurs jugés et condamnés sur place à Kavumu. Maître Ephrem, président du noyau de la société civile de Kavumu.
J'en étais très très fier que pour une fois, les gouvernements provinciaux se soient impliqués pour qu'on mette la main sur le présumé violeur. Mais notre réaction est aussi douloureuse parce qu'en principe, nous qui sommes victimes de ces actes, nous, je cite la population de Kavumu, sommes en besoin de voir qui sont ces gens-là. Nous voulons que l'instruction préjuridictionnelle soit faite à Kavumu, que l'instruction juridictionnelle soit faite à Kavumu. Le gouvernement provincial ne manque pas le moyen pour que ces gens soient jugés sur place. Nous voulons obtenir des chambres foraines dans lesquelles ces gens-là sont jugés pour que la population elle-même puisse vivre en réalité les auteurs de viols de nos petites filles de 2 ans, de 3 ans et que la loi leur soit appliquée.
Pour les victimes, l'État doit renforcer la sécurité à Kavumu. L'une d'elles rencontre.
Nous sommes contentes, mais tous les violeurs doivent être punis et emprisonnés. Il faut aussi que l'État nous sécurise car nous avons peur.
La justice n'est plus indifférente et les magistrats ne blaguent plus avec des questions de violence, affirme Janine Mabunda, la conseillère spéciale du chef de l'État, Joseph Kabila, en matière de violence sexuelle. Pourtant, Kinshasa semble ne pas mettre au premier plan la question des violences, note le président de la société civile de Kavumu. Mais un plan de plaidoyer est mis en place pour que la voix des victimes soit portée plus haut. Maître Ephrem.
La politique semble ne pas du tout être très très favorable quant à son implication effective dans les événements d'insécurité à travers la province ou à travers le pays. Nous pensons pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile. Nous voulons approcher les autorités judiciaires pour que nous puissions leur dire, écoutez, nous ne nous fatiguerons jamais aussi longtemps que les derniers des auteurs des viols sur nos petites filles ne soient jugés et punis conformément à la loi.
Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Entre parenthèses.
Vous écoutez le magazine au féminin avec Nathalie Barge et une invitée en ligne en Irak à Erbil, Sandra Black de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est pour faire le point sur la situation des personnes déplacées, hein, les déplacés internes en Irak. On a passé la barre des 2 millions de personnes déplacées en Irak par la guerre. Alors, Madame Sandra Black, bonjour et merci d'être avec nous.
Ah, bonjour Nathalie, merci bien.
Alors l'OIM s'inquiète de l'hiver hein, qui peut être très froid dans certaines régions de l'Irak. Donc il s'agit d'équiper notamment hein, ces personnes déplacées pour qu'elles n'aient pas froid.
Oui, c'est vrai. Nous sommes très préoccupés pour les déplacés pendant l'hiver. C'est trop froid dans le nord d'Irak et nous sommes en train de donner des kits d'aide non alimentaires pour les vestes. Il y a des tapis, des radiateurs et des bâches en plastique. Cette année, on a donné plus que 60 000 kits dans tout le pays pour les déplacés.
L'OIM fournit également un soutien psychologique. Hein. On parle quand même de personnes traumatisées hein, qui ont été témoins de violences considérables. Donc, quel genre de soutien psychologique vous pouvez apporter à ces familles et surtout aux enfants?
Oui, c'est vrai. Dans toute famille, il y a des personnes qui sont affectées par la violence. Ils ont vu leur maison, leur vie. Quelques personnes ont vu leur voisin qui s'était tué pendant la violence. OIM, on a commencé un programme psychosocial pour aider les personnes affectées à continuer leur vie et reprendre leurs activités de travail aussi.
Quelles sont les communautés qui sont déplacées en particulier?
Chaque groupe de personnes ici en Irak sont affectées par la violence. Et dans notre staff, on a personnes de chaque groupe pour aider les personnes affectées dans le meilleur méthode possible. Mais c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas l'argent pour aider tout le monde.
Est-ce que ces personnes déplacées bénéficient d'une protection du gouvernement?
OIM et les autres partenaires de l'aide humanitaire sont en train de travailler avec le gouvernement national, et régional et local pour aider les personnes affectées. Mais c'est difficile pour nous aussi aller dans chaque région parce que c'est dangereux pour nous aller là-bas.
Quel type de témoignage pourriez-vous nous rapporter?
La semaine dernière, j'avais l'opportunité de parler avec une famille qui sont venues de Mosso et maintenant ils sont dans une maison passionnée avec leurs 4 enfants. Ils ont dit que les enfants sont très intelligents, ils ont plus beaucoup d'espoir pour le futur, mais sans l'école et sans travail, et le père a perdu leur espérance pour le futur, pour leur famille. La situation, ça devient plus et plus difficile ici en Irak parce que le chiffre de déplacés continue à augmenter et il y a beaucoup de personnes qui sont très vulnérables sans l'argent pour louer une maison. Le gouvernement est en train d'ouvrir plus de camps pour les déplacés, mais avec le grand chiffre de 2 millions, ce n'est pas possible pour nous de donner toute l'aide que tous les déplacés ont besoin.
Il y a une grande urgence, hein, on l'a bien compris, pour loger hein, toutes ces personnes, leur apporter une aide, et c'est votre appel. Est-ce que vous-même, vous avez connu les bombardements? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez été proche de tirs de roquettes? Parce qu'il n'y a pas seulement les groupes armés, mais les bombardements, c'est également terrible pour les gens qui vivent là-bas.
Oui, j'ai parlé avec quelques déplacés et les enfants qui ont vu la violence et ont écouté le bombardement. C'est très dangereux pour ces familles. On veut bien revenir chez eux, mais c'est pas possible parce que dans beaucoup de villes, le groupe armé sont toujours là-bas et on n'a pas la confiance, pas encore, pour revenir chez eux. Ils attendent et leur situation, ça devient plus difficile avec l'hiver.
Sandra Black, communicatrice pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations en Irak. Vous êtes à Erbil, je le rappelle, en Irak. Merci beaucoup, bon courage et à très bientôt.
Merci beaucoup, Nathalie.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You rise.